Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 15h en temps universel, 17h ici à Paris.
Victor Moria.
Le Liban et l'Iran bombardés cette nuit par Israël. Des dégâts limités, explique le régime iranien. Tel Aviv, de son côté, avertit déjà qu'elle ne tolérera pas une éventuelle riposte, une escalade qui n'est pas dans l'intérêt des deux puissances régionales. Mais quelle suite alors à cette série d'attaques ripostes ? Réponse dès le début de ce journal. Jour d'élection en Géorgie, ce petit État caucasien va devoir choisir entre pro-russe et pro-européen. Reportage avec les militants de Rêve Géorgien, le parti au pouvoir proche du Kremlin. Enfin, direction les États-Unis avec les excuses historiques de Joe Biden aux populations amérindiennes et la solvabilité de la France remise en question par les agences de notations internationales. Hier soir, l'État hébreu a lancé son offensive attendue contre l'Iran en réponse aux salves de missiles du 1er octobre. Selon l'armée, Israël n'a touché que des cibles militaires, notamment des sites de fabrication de missiles. Aucune infrastructure énergétique ou nucléaire n'a été bombardée. Téhéran parle de dégâts limités. Les États-Unis préviennent avoir été informés, mais ne pas avoir participé à l'opération. L'armée israélienne, elle, parle de frappes ciblées et limitées. De leur côté, les Iraniens minimisent l'impact des frappes israéliennes, mais affirment avoir le droit de se défendre. Quelle suite alors de cette série d'attaques et de ripostes qui rythment les relations israélo-iraniennes depuis plusieurs mois? C'est la question que Julien Coquel-Rohem a posée à Hasni Abidi. Il est politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Je dis que les deux hypothèses sont valables, c'est-à-dire que le récit iranien est plus plaide en faveur plutôt d'une certaine retenue, mais une riposte iranienne n'est pas exclue, mais elle sera donc de la même nature que celle subie ce matin. Mais la tendance générale est vers plutôt l'accalmie et pas l'escalade, d'abord parce que les Américains ne veulent surtout pas, dans cette conjoncture très délicate, des élections, mais des tensions exacerbées au Liban et à Gaza, de monter d'un cran le niveau de tension dans la région, et parce que aussi, il y en a des pays, les monarchies du Golfe, les alliés américains, et qui n'ont pas intérêt aussi à voir une guerre touchée à la fois à leurs sites pétroliers, les sites gaziers. Et ça, c'est un élément important que les États-Unis doivent prendre en considération. Israël a montré finalement ce matin, s'il se maintient à cette trappe, que les limites sont atteintes au niveau militaire, ce que d'ailleurs les généraux israéliens le disent, que Israël n'a pas les moyens militaires et financiers pour continuer cette guerre ou d'être actif sur plusieurs fronts.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. La Géorgie est en train de vivre le scrutin le plus important de son histoire. C'est en tout cas le ressenti de nombreux électeurs en se rendant aux urnes ce samedi. 3 400 000 électeurs sont appelés à élire 150 députés. Un scrutin à la proportionnelle intégrale, en un tour donc, qui doit déterminer vers qui, de l'Europe ou de la Russie, se tournera le pays. D'un côté, les pro-européens et de l'autre, les soutiens du gouvernement actuel qui a récemment pris un virage pro-russe. Ce parti, c'est le Rêve Géorgien, fondé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Romain Dussen a rencontré ses supporters dans la capitale Tbilissi.
Dans les rues de Tbilissi, impossible de les manquer. Sur les arrêts de bus, en pleine rue ou sur les palissades de chantier, les affiches bleues et jaunes du Rêve Géorgien sont partout. Le parti au pouvoir a mis le paquet sur la communication et réussi à mobiliser sa base militante. Sandro Tvalishvili est membre de l'organisation de jeunesse du Rêve Géorgien.
Tous les jours, on avait des réunions pour discuter de nos actions sur le terrain, pour comprendre les problèmes des gens, avant justement d'aller à leur rencontre.
Au cours de la campagne, le Rêve Géorgien a rappelé son attachement à l'UE, tout en balayant l'idée d'un retour dans le giron russe. Un argument martelé par Mariam Grigolichvili, sympathisante.
Les critiques à l'égard du Rêve Géorgien existent seulement car nous avons refusé de sanctionner la Russie. Par ailleurs, notre gouvernement a été suffisamment courageux pour fournir à l'Ukraine une aide substantielle.
Sandro est, lui, conscient que son parti de cœur ne fait pas l'unanimité chez les jeunes de son âge, mais veut croire en la victoire.
Je suis ravi qu'autant de défenseurs des droits de l'homme soient descendus mercredi, place de la Liberté, pour nous soutenir. Notre objectif est de faire de la Géorgie un meilleur pays, et je suis sûr qu'on va gagner.
Selon les derniers sondages, le Rêve Géorgien est crédité de 34 à 36% des voix. Tbilissi, Robin Dussen, RFI.
Des excuses historiques. Vendredi, aux États-Unis, le président américain Joe Biden a demandé pardon au peuple amérindien dont les enfants ont été arrachés par l'État durant plus d'un siècle à leur famille pour les assimiler de force, et ce à coup de maltraitance physique, psychologique et sexuelle. Christophe Paget.
La colère est palpable dans la voix de Joe Biden lorsqu'il prend la parole depuis la réserve amérindienne de Gila River en Arizona pour présenter des excuses formelles.
Le gouvernement fédéral a ordonné l'enlèvement d'enfants à leurs familles et leurs tribus, lançant ce qu'on appelle l'ère des pensionnats fédéraux amérindiens. Pendant plus de 150 ans, du début des années 1800 jusqu'à 1970, l'un des chapitres les plus horribles de l'histoire américaine. Nous devrions avoir honte.
Aux côtés du président, la ministre de l'Intérieur, Debba Land, première ministre amérindienne aux États-Unis, elle a lancé en 2021 une grande enquête sur ces pensionnats et mené une tournée dans 12 communautés amérindiennes pour que les victimes puissent partager leurs témoignages.
Ces pensionnats fédéraux amérindiens ont affecté toutes les personnes autochtones que je connais. Certains sont des survivants, d'autres sont des descendants, mais nous portons tous le traumatisme que ces politiques et ces lieux ont infligé.
Ces excuses du président surviennent à quelques jours de la présidentielle. Au-delà du travail réel du gouvernement de Joe Biden sur la question, il s'agit aussi de convaincre la communauté amérindienne de l'Arizona, une des plus importantes du pays, dans ce qui est un des états-clés de la présidentielle.
Christophe Paget, c'est l'une des questions au cœur de la campagne présidentielle américaine actuelle. L'avortement reste une bataille de tous les jours pour les femmes du monde entier, tant le retour au traditionnalisme menace en Australie, par exemple, où c'est le cas. Le sujet est revenu sur le devant de la scène. L'IVG est même devenu l'un des thèmes principaux du débat de l'élection législative de l'État du Queensland qui se tient ce week-end au nord-ouest du pays, d'où la correspondance est signée Léo Roussel.
Soutenu par près de 70% de la population en Australie, l'avortement est pourtant bien au cœur de l'élection du gouvernement de l'État du Queensland ce samedi. Au début du mois, un parti mineur a annoncé qu'il soumettrait un projet de loi pour revenir sur la décriminalisation de l'IVG dans l'État en cas d'obtention de siège. Mais ce qui inquiète Jill McKay, directrice d'une association de protection de l'avortement, c'est le silence du Parti libéral national. Favori pour obtenir la majorité et détrôner les travaillistes, il refuse de dire s'il voterait ou non pour un tel projet de loi.
On peut uniquement se fier à la façon dont ces députés ont voté par le passé. En 2018, seuls deux parmi ceux qui se présentent cette année avaient soutenu l'accès à l'avortement.
Spécialiste de la question de l'IVG, la docteure Prudence Flowers craint de voir le débat se nationaliser après le scrutin. Elle estime aussi que l'issue de l'élection américaine de novembre pourrait peser sur la question en Australie.
Si Trump gagne, ça va encourager les opposants à l'avortement ici. Quand l'arrêt Roe v. Wade a été annulé, ils avaient vu ça comme un appel à la mobilisation.
L'État du Queensland a vu l'accès à l'avortement décriminalisé en 2018 seulement. Les associations de médecins et de défense de l'IVG craignent un retour en arrière. Résultat de l'élection samedi soir. Léo Roussel, Sydney, RFI.
C'était une date fixée depuis longtemps, mais qui tombe en plein examen du budget 2025 au Parlement français, où le gouvernement n'a qu'une majorité très relative. L'agence de notation Moody's a maintenu vendredi soir la note de la dette de la France. Elle était de double A2, l'équivalent d'un 18 sur 20. Elle est désormais assortie d'une perspective négative. Cela veut dire que l'agence ne s'interdit pas de baisser cette note à l'avenir. Justine Fontaine a demandé à Eric Dor, le directeur des études économiques à l'IESEG, une école de management, à quoi servent ces agences de notation?
On a constaté au cours des années récentes que, en tout cas en ce qui concerne les grands pays développés, qui fournissent aux investisseurs beaucoup de données, hein, comme la France, hein, c'est quand même relativement transparent, on fournit une abondance de données, mais finalement, le rôle des agences de notation devient plus léger, parce que les grands investisseurs qui investissent en dette publique n'ont pas besoin vraiment des agences de notation. Ils ont leur propre capacité d'analyse pour apprécier la solvabilité de chacun des États. Et on constate comme ça que finalement, les décisions des agences de notation ne sont plus un signal important qui détermine le comportement des marchés. C'est même plutôt le contraire. Les agences de notation maintenant suivent plutôt les marchés plutôt que de les précéder. Alors les agences vont servir plus, par exemple, pour tous les pays du Sud, hein, comme on pourrait les appeler, les pays émergents, etc., tous les pays pour lesquels il y a un peu moins de transparence et d'abondance de statistiques disponibles.
Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG, l'école de management. Il était au micro de Justine Fontaine. Et sur ce sujet, le ministre français de l'économie a assuré vendredi prendre note de la décision du Moody's et estime que la France dispose de forces économiques réelles et qu'elle est capable de mener des réformes d'ampleur. Fin de citation. RFI, 15h10 en temps universel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.